Bonsoir. Dans une déclaration doctrinale inattendue, publiée lundi 18 décembre, le Vatican a autorisé explicitement pour la première fois la bénédiction des couples homosexuels. Je cite, « Il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe », affirme ainsi le dicastère pour la doctrine de la foi, dans une déclaration d'une dizaine de pages intitulée « Fiducia supplicans, la confiance suppliante. » Cette bénédiction, insistent les auteurs du document, peut être pratiquée à condition de ne pas créer de confusion avec la bénédiction du mariage. Elle ne consiste pas à avaliser le mode de vie des personnes concernées, ni à valider officiellement leur statut, je cite, ni modifier en quoi que ce soit l'enseignement pérenne de l'Église sur le mariage. Ces formes de bénédiction expriment une supplication à Dieu pour qu'il accorde des aides qui proviennent des impulsions de son esprit, souligne le document, qui est l'un des premiers du cardinal Victor Manuel Fernandez, un proche du pape François, nommé le 1er juillet dernier préfet du dicastère pour la doctrine de la foi. Dans une note publiée en février 2021, cette même congrégation déclarait, je cite, « illicite toute forme de bénédiction qui tente à reconnaître les unions homosexuelles », précisant qu'on ne peut bénir une relation impliquant une pratique sexuelle hors mariage. Le document du 18 décembre a déclenché de vives réactions à l'échelle mondiale. D'un côté, certains dénoncent une pastorale qui mépriserait la doctrine, d'autres la confusion semée chez les fidèles, d'autres encore une temporalité irrespectueuse du processus synodal. De l'autre bord, certains regrettent la persistance à désigner les personnes homosexuelles ou divorcées remariées comme des pécheurs qu'on pourrait bénir comme des objets. Il y a 10 jours, le cardinal Jean-Marc Aveline, qui intervenait sur cette scène pour les 50 ans du Centre Sèvres, a mis en garde l'Église, sans faire référence directement au texte, contre une, je cite, « inhumanité » qui la rend si peu audible et si peu crédible aujourd'hui. Cette attitude est contraire à la conduite de Jésus telle qu'elle nous est racontée par l'Évangile, a-t-il souligné. Il faut écouter la vie des personnes avec leur part de chaos et de misère. Pour débattre de la question, nous avons la chance d'avoir un panel riche. Hélène Bricout, vous êtes enseignante à l'Institut catholique de Paris, théologienne de la liturgie et des sacrements. Jean-Philippe Cavrois, vous êtes ancien président de Devenir un en Christ, une association qui propose à tout chrétien, homme ou femme, concerné par l'homosexualité, d'avancer humainement et spirituellement, quel que soit son état de vie. Et nous avons 2 régionaux de l'étape. Alain Thomasset, jésuite, professeur de théologie morale aux facultés Loyola Paris, c'est le nouveau nom du Centre Sèvres depuis une semaine, et Donatien Niembaum Bala, jésuite aussi, étudiant en 2e cycle de philosophie. Alain, on va commencer avec vous. Avec fiducia supplicans, la pastorale l'emporte-t-elle sur la doctrine ?
Voilà, merci Vincent de cette présentation. Bonjour à tous et à toutes. Le document du dicastère pour la doctrine de la foi qui porte sur la signification pastorale des bénédictions, c'est son titre, a suscité beaucoup d'interrogations et de réactions diverses. Certains pour s'en réjouir, d'autres pour la contester. Mais comme il s'agit d'un document du magistère ordinaire de l'Église, il est toujours nécessaire de l'accueillir avec bienveillance et de chercher d'abord à en comprendre le sens et l'intention, même s'il est ensuite possible d'en discuter les arguments ou les conséquences. Et donc avant d'examiner les questions pastorales ou les difficultés doctrinales sur lesquelles il sera possible de revenir ensuite, je voudrais essentiellement dégager l'enjeu théologique de fond de ce texte, qui porte précisément sur le lien entre doctrine et pastorale. C'est la question de ce jour. Vous posez la question de savoir si la pastorale, c'est-à-dire le souci des personnes pour leur annoncer la bonne nouvelle, les encourager, leur fournir des éléments pour grandir dans la foi, l'emporte sur la doctrine, c'est-à-dire, si je comprends bien, la vérité de la foi issue de la révélation et interprétée par la tradition. Je répondrai que pastorale et doctrine sont absolument inséparables et qu'il est vain d'opposer, comme beaucoup de commentateurs le font, hélas, le souci des personnes et la défense de la vérité de la foi. C'est ce que je voudrais expliquer. L'Église a pour vocation d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et d'en témoigner. C'est donc la mission qui doit guider sa réflexion théologique et son comportement pastoral. Or, la mission ne consiste pas à asséner de manière abstraite des vérités à croire aux personnes que nous rencontrons, mais à commencer par écouter comment l'Esprit travaille déjà le cœur des personnes qui viennent à nous, car Dieu nous a toujours précédés. Comme le dit Vatican II, la révélation est d'abord et avant tout la communication de Dieu lui-même à l'humanité. Cette communication suppose la prise en compte du récepteur humain de cette révélation, avec sa condition historique, culturelle, sociale. La compréhension de la parole de Dieu, sa manifestation dans nos vies grâce à l'expérience de l'Esprit, suppose donc de prendre en compte l'expérience chrétienne des personnes et des communautés. Bien sûr, la doctrine doit orienter nos orientations pastorales pour former les chrétiens à se conformer toujours davantage à l'évangile du Christ. C'est pourquoi des normes morales servent de repère à la conscience de chacun et des règles liturgiques cherchent à traduire en vérité le mystère de la foi. Mais d'un autre côté, la doctrine et la réflexion théologique ne cessent de s'approfondir par le biais de l'expérience chrétienne des fidèles qui témoigne du sens de la foi du peuple de Dieu, le fameux sensus fidei fidelium, offrant des perspectives nouvelles sur des questions anciennes ou sur des situations jusque-là inédites. Dans l'Église primitive, par exemple, les traditions liturgiques ont souvent précédé les formulations du credo. C'est la loi de la pratique de la prière qui a été la loi de la foi. Et en matière morale, pensons aux évolutions historiques de la conscience chrétienne sur le préintérêt, l'esclavage ou plus récemment sur la peine de mort qui ont conduit à une modification progressive du catéchisme. Et je ne cite pas la doctrine sociale de l'Église qui travaille ainsi, c'est-à-dire à partir de l'expérience elle-même vécue par les chrétiens. Donc entre doctrine et pastorale se joue une dialectique incessante car la doctrine est par essence communication, conversation, dirait Paul VI, dialogue avec la vie. Et le pape François a beaucoup insisté pour rappeler cette unité inséparable entre doctrine et pastorale. Je le cite. La doctrine est au service de la mission. Tout enseignement de la doctrine doit se situer dans l'attitude évangélisatrice qui éveille l'adhésion du cœur avec la proximité, l'amour et le témoignage. Et un peu plus loin, rappelant la hiérarchie des vérités de la doctrine et la primauté de l'amour et de la loi de la charité, il en déduit des attitudes pastorales correspondantes dans Evangelii Gaudium. Je le cite. La centralité du kérigme demande certaines caractéristiques de l'annonce qui aujourd'hui sont nécessaires en tout lieu. Qu'elle exprime l'amour salvifique de Dieu préalable à l'obligation morale et religieuse. Qu'elle n'impose pas la vérité et qu'elle fasse appel à la liberté, qu'elle possède certaines notes de joie, d'encouragement, de vitalité et une harmonieuse synthèse qui ne réduise pas la prédication à quelques doctrines parfois plus philosophiques qu'évangéliques. Cela exige de l'évangélisateur, dit-il, des dispositions qui aident à mieux accueillir l'annonce. Proximité, ouverture au dialogue, patience, accueil cordial qui ne condamne pas. Fin de citation. À bien des reprises, le pape rappelle cette perspective missionnaire qui oblige à prendre en compte la situation réelle et particulière des personnes rencontrées dans la pastorale. Et sans vouloir tout justifier, il s'agit bien de rejoindre les personnes là où elles sont dans leur parcours et dans leur histoire. Parce que, dit-il, c'est là où Dieu nous attend. Et je cite à Maurice Laetitia, « La présence du Seigneur se manifeste dans la famille réelle et concrète, avec toutes ses souffrances, ses luttes, ses joies et ses efforts quotidiens. La question est donc celle-ci. Comment mettre en œuvre ces attitudes d'évangélisation guidées par la loi de la charité envers les couples dits en situation irrégulière? La bénédiction n'est-elle pas une manière de manifester cela? Pour en revenir à la déclaration Fiducia Supplicans, celle-ci manifeste bien cette posture pastorale qui s'enracine dans une juste compréhension de la doctrine et de son rapport à la vie. Déjà, dans l'exhortation à Maurice Laetitia sur la famille, le pape avait marqué l'insistance sur la logique de la miséricorde pastorale au nom même de la doctrine. Au nom même de la doctrine. Pour le pape François, la miséricorde de Dieu est, je cite, le centre de la révélation de Jésus-Christ et la mission première de l'Église est de faire entrer tout un chacun dans ce mystère. Une compréhension de la pédagogie divine à notre égard et de la manière de faire de Jésus-Christ dans l'Évangile, dont la lumière doit inspirer la pastorale de l'Église à l'égard des personnes en situation irrégulière, invite donc à une application de l'enseignement de l'Église qui, sans nier son exigence intégrale, met en avant la primauté de la charité et l'amour inconditionnel de Dieu à l'égard de tous. La vérité, qui pour les chrétiens est la personne du Christ avant tout, se découvre à l'Église en contemplant le Christ dans ses enseignements et ses actions. C'est ça qui doit guider toute notre pastorale. Comment le Christ agit? Comment est-ce qu'il dit? Et cette attitude permet dès lors, le pape le propose dans Amoris Laetitia, un chemin de discernement, d'accompagnement, d'accueil, en vue d'une plus grande intégration des divorcés remariés notamment, dans la communauté, y compris éventuellement dans l'accès au sacrement, compte tenu du fait que selon les circonstances et les responsabilités, les effets d'une norme, dit-il, ne doivent pas nécessairement être toujours les mêmes. Donc vous voyez une attention à la réalité pour mieux accueillir, accompagner et intégrer. Alors le texte du magistère, du dicastère romain, s'inscrit dans cette ligne et tente de tenir ces deux réalités indissociables que sont la charité et la vérité. Fidèle à la nature de l'Église, qui est le sacrement universel du salut, manifestant et actualisant tout à la fois le mystère de l'amour de Dieu pour l'homme, l'autorisation de bénédiction non sacramentelle et hors cadre liturgique, dit le texte, manifeste ce devoir de l'Église de révéler l'amour de Dieu pour toute personne. Quelle que soit la situation d'une personne à l'égard de l'enseignement de l'Église, celle-ci peut être rejointe dans son chemin de vie. Et la bénédiction exprime cette bienveillance et cette miséricorde de Dieu dont l'Église a devoir de témoigner. En cela, elle rejoint la personne avec tout ce qu'elle est, y compris ses relations, en sorte qu'elle ne se sente pas rejetée ou exclue, comme ce fut souvent le cas. La réalité d'un couple dit irrégulier, qu'il s'agisse d'un couple divorcé remarié, ou d'un couple en concubinage, ou d'un couple homosexuel, fait partie de la vie de cette personne. Peut-on bénir une personne en la séparant de l'ensemble de sa vie et de son être, dont l'orientation sexuelle fait partie, mais aussi de sa recherche du bien, du bonheur, et éventuellement de sa relation privilégiée avec un autre, dans le souci de la foi et dans la suite du Christ? En même temps, le texte est clair pour précisément distinguer cette bénédiction d'une bénédiction sacramentelle et éviter toute confusion, le mot confusion revient 8 fois dans le texte, éviter toute confusion avec le sacrement de mariage. Cette distinction nouvelle est l'apport doctrinal du texte. Il y a plusieurs sortes de bénédictions. L'Église reste donc fidèle à sa mission d'annoncer la beauté du mariage chrétien, sa particularité selon l'Évangile, communion d'un homme et d'une femme dans une alliance exclusive, indissoluble, ouverte à la fécondité. Et le texte insiste à de nombreuses reprises sur le fait de préserver cette distinction entre la vocation du mariage, qui est à valoriser, à signifier, et la situation des personnes qui ne sont pas à même de le vivre mais qui peuvent recevoir l'attention bienveillante de l'Église. La doctrine, la vérité évangélique du mariage n'est pas oubliée, elle est même fortement rappelée, mais elle n'est pas posée d'une manière qui exclurait de la miséricorde pastorale ceux et celles qui ne vivent pas cette exigence ou qui en sont incapables. Comme le dit le pape François d'Amoris Laetitia, « Je comprends ceux qui préfèrent une pastorale plus rigide qui ne prête à aucune confusion, mais je crois sincèrement que Jésus-Christ veut une Église attentive au bien que l'Esprit répand au milieu de la fragilité. Une mère qui, en même temps qu'elle exprime clairement son enseignement objectif, ne renonce pas au bien possible, même si elle court le risque de se salir avec la boue de la route. » La réception de la déclaration Fiducia Supplicans s'est rendue difficile parce qu'elle met en évidence la tension que l'Église ne cesse de vivre entre témoignage de l'amour de Dieu et annonce des exigences du royaume. Or, cette tension est structurelle de l'Évangile et de la manière de faire du Christ. Je cite pour finir ce qu'en dit le cardinal Schönborn. Le défi de la conversion pastorale, c'est de voir qu'entre la doctrine et la pastorale, il n'y a pas de clivage, dit-il. Parce que si la doctrine est vraiment l'enseignement du Christ, c'est l'enseignement du bon maître, du bon pasteur, qui, dans sa miséricorde, cherche la rencontre qui bouleversera une vie et donnera petit à petit des fruits nouveaux. L'organicité de la doctrine, dit-il, avant d'être logique, est vitale. C'est ce dialogue vital entre doctrine et pastorale que le texte du dicaster cherche à illustrer. Merci.
Merci Alain. Hélène, je vous rappelle, théologienne, spécialiste de la liturgie et des sacrements. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ce texte? J'ai bien compris, Alain dit qu'il y a plusieurs sortes de bénédictions. Est-ce que toutes les bénédictions sont équivalentes? Essayez de nous éclairer.
Donc oui, quelques clés de lecture en quatre points. Le premier point, c'est un texte qui vient après d'autres textes. On peut se limiter peut-être au responsum que tu as évoqué tout à l'heure, qui était assez restrictif et qui a été accueilli avec perplexité par les personnes concernées et par la pastorale.
Donc ça, c'était le texte de février 2021.
Voilà. Il avait considéré qu'autoriser la bénédiction liturgique de couples homosexuels conduirait à offrir une forme de légitimité morale à une union qui se présente comme un mariage ou à une pratique sexuelle extramaritale, je pense que tu l'as cité tout à l'heure, et donc pour cette raison avait récusé toute pratique. On pourrait peut-être questionner le présupposé selon lequel une bénédiction liturgique de personnes vaut reconnaissance de leur statut ou de leur mode de vie. La déclaration Fiducia Supplicans met ce présupposé comme une contrainte à laquelle il faut répondre, puisque, comme l'a rappelé Alain, il revient à plusieurs reprises qu'il faut éviter cette confusion. Refuser la bénédiction du couple était la mesure privilégiée par le responsum. Mais la déclaration souligne un risque majeur. Je le cite, « obscurcir la force inconditionnelle de l'amour de Dieu sur lequel se fonde le geste de la bénédiction. » C'est au numéro 12. « Et perdre la charité pastorale qui doit passer par toutes nos attitudes et nos décisions et nos attitudes. » L'ouverture à une compréhension plus large de la bénédiction est la piste choisie par le dicaster pour éviter ce risque, car la bénédiction est précisément un signe de la miséricorde de Dieu. Il faudrait aussi signaler, dans ce texte qui vient après d'autres textes, à Maurice Laetitia, mais tu l'as déjà fait abondamment Alain, donc je n'y reviens pas. Deuxième point, de la miséricorde à la bénédiction. On pourrait dire que l'apport le plus important ne devrait pas en être un. Cet apport, c'est « toute personne peut être bénie ». Ça ne devrait pas en être un parce que ça devrait être évident. En relisant le sens de la bénédiction dans la Bible, la déclaration estime que, je cite, « la bénédiction se transforme en inclusion, en solidarité et en pacification. » C'est un message positif de réconfort, de sollicitude et d'encouragement. La bénédiction exprime l'étreinte miséricordieuse de Dieu et la maternité de l'Église qui invite les fidèles à avoir les mêmes sentiments que Dieu envers leurs frères et sœurs. Citation numéro 19. Autrement dit, il ne s'agit pas de légitimation morale, mais d'une aide pour encourager, dans une situation difficile, le déploiement de la grâce baptismale reçue. Il ne faut pas l'oublier. Autrement dit, c'est affirmer que la grâce ne peut pas être enfermée dans des normes. L'intention est claire et on ne peut que la partager, car elle relève, tu l'as rappelé aussi, d'un principe doctrinal, exprimé ainsi par la Commission théologique internationale. Toutes les notions théologiques qui, en définitive, remettent en question la toute-puissance de Dieu, et en particulier sa miséricorde, sont inadéquates. Il n'est désormais plus possible de dire que des personnes en situation irrégulière ne peuvent pas être bénies. Le reste du document doit être compris comme un moyen de mettre en œuvre ce point à propos des personnes en situation conjugale dite irrégulière. Il existe différentes sortes de bénédictions. Certaines sont consécratoires, elles consacrent les personnes, et sacramentelles, comme la bénédiction des époux. D'autres sont consécratoires, mais considérées comme non sacramentelles, comme la profession religieuse, ou la dédicace des églises, ou des autels. Certaines ont des effets juridiques, comme la profession religieuse encore, le mariage ou l'ordination, puisqu'elles font changer les personnes de statut ecclésial. Et il existe quantité de bénédictions de toutes sortes, depuis la bénédiction directe de personnes, comme les enfants, les vieillards, les malades, ou la bénédiction indirecte de personnes à travers un lieu ou un objet, une médaille, un chapelet, une icône, le repas, la maison, la voiture, une salle paroissiale, etc. Ces bénédictions sont consignées dans le petit livre, le gros livre des bénédictions. Ce livre liturgique, là, qui comporte en introduction un merveilleux petit traité de la bénédiction. Les gestes de bénédiction y sont considérés comme une petite célébration comportant une liturgie de la parole qui donne son sens aux gestes de bénédiction. La présence de membres de la communauté de vie humaine et chrétienne, de ceux ou de celui ou de celle qui est béni. Une action de grâce pour les dons de Dieu et une intercession pour demander d'autres bienfaits. Troisième point, une nouvelle forme de bénédiction, point d'interrogation. La déclaration propose encore un autre type de bénédiction, mais il faut d'emblée préciser que c'est la forme d'une bénédiction spontanée extrêmement répandue en Amérique latine et probablement ailleurs comme en Afrique par exemple, où le livre des bénédictions est pratiquement inconnu et inutilisé. On demande à la fin d'une messe ou dans un sanctuaire la bénédiction d'un enfant, d'une personne, d'un objet religieux que l'on va porter ou accrocher chez soi, éventuellement des personnes en situation irrégulière. Ce sont des bénédictions privées qui relèvent de la dévotion populaire. Les prêtres bénissent, sans rituel, de manière improvisée, à la sacristie, dans la rue ou ailleurs. C'est très précisément cette pratique de bénédiction pastorale, familière au pape François, comme au cardinal Fernandez, préfet du dicastère pour la doctrine de la foi, qui est proposée comme une forme possible pour les situations irrégulières. Et c'est celle-ci qui est décrite dans la déclaration, comme par un communiqué qui a été publié ultérieurement le 4 janvier. Le dicastère n'a fait que reprendre une bénédiction qui se pratique déjà couramment dans le sous-continent latino-américain. D'ailleurs, les épiscopats latino-américains n'ont guère réagi à la déclaration, car pour eux, elle ne constitue pas un événement. On peut ainsi comprendre que les réactions assez vives et d'autres prudentes de certains épiscopats ne connaissant pas cette pratique aient surpris le pape François ou le dicastère. Dernier point, mettre en œuvre la proposition de fiducia supplicans. La proposition de bénédiction des personnes importées d'Amérique latine illustre un phénomène typique du pontificat du pape François. C'est que les églises locales peuvent discerner les pratiques et adaptations qui leur paraissent opportunes et être porteuses de pratiques qui font sens, peut-être aussi pour d'autres régions. Mais la proposition demande à être reçue, éventuellement modifiée, car il est peu probable qu'elle soit adaptée comme telle à la pastorale occidentale. La proposition de fiducia supplicans est une forme minimale qui n'exclut pas en principe d'autres pratiques déjà en œuvre dans d'autres églises. Certaines font déjà une bénédiction de la maison de personnes en situation irrégulière. D'autres prévoient un temps de prière à l'église ou ailleurs. Et différents diocèses ou conférences épiscopales ont prévu des orientations pour ce genre de célébration. Beaucoup, conformément à Amoris Laetitia, proposent un cheminement sur le temps long dans lequel s'insère la bénédiction comme une étape. Amoris Laetitia, tu l'as rappelé Alain tout à l'heure, reste une feuille de route valable. Elle apparaît d'ailleurs en arrière-fond de la déclaration qui constitue un nouvel encouragement à accueillir, accompagner, intégrer toutes les personnes selon le principe « le temps est supérieur à l'espace ». Bien sûr, la proposition de la déclaration pose différentes questions, aussi bien à la théologie morale qu'à la théologie de la liturgie, car elle est adressée à des régions qui ne connaissent pas cette pratique. Enfin, la déclaration encourage implicitement, pour mieux accompagner les personnes, je pense qu'elle nous encourage à réétudier les situations spécifiques et en particulier l'homosexualité. Jusqu'ici, le discours manque de clés provenant des sciences humaines, anthropologiques, historiques, sociologiques, ainsi que de l'expérience des personnes concernées pour en avoir une connaissance plus juste et en conséquence une attitude plus appropriée.
Merci beaucoup Hélène. Jean-Philippe, donc vous êtes ancien président du mouvement Devenir un Christ. Est-ce que vous pouvez présenter le mouvement et dire comment vous réagissez au texte? Merci.
Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir proposé de participer à cette soirée. Alors, pour faire suite à ce que vous disiez l'un et l'autre, je vais essayer d'apporter quelque chose qui soit de l'ordre du vécu. Déjà, concernant l'association Devenir en Christ, comme vous l'avez très bien présenté, c'est une association d'accueil, d'écoute, de partage pour les personnes concernées par l'homosexualité directement ou leurs proches. Et aussi, c'est un lieu, je dirais, de cheminement dans la foi pour grandir justement spirituellement et un lieu aussi où on est en lien avec l'Église. L'idée, c'est d'essayer d'aider les personnes à réconcilier justement foi et homosexualité, deux choses qui me paraissent a priori difficiles à concilier. Mais justement, l'idée, c'est à situation un peu complexe, les réponses sont complexes. Mais l'idée d'articuler effectivement la doctrine et la pastorale permet bien sûr d'avancer, de comprendre et de réconcilier tout ça. Alors, je voulais peut-être, sans être trop long, mais dire de quoi on parle en fait. Parce qu'aujourd'hui, sur l'homosexualité, j'imagine que dans la salle, beaucoup le savent déjà, mais la doctrine, à travers notamment le catéchisme, accueille la personne homosexuelle, mais n'accueille pas, bien sûr, l'acte homosexuel. Et dit même que c'est effectivement cet acte ne peut être encouragé et moralement pas acceptable, et que c'est de l'ordre de quelque chose qui est désordonné.
Intrinsèquement désordonné.
Intrinsèquement désordonné, exactement. Ce qu'il faut entendre hein, quand on est chrétien, catholique, il faut entendre ça. Mais évidemment, c'est très difficile à entendre quand on est concerné ou quand on est proche de quelqu'un de concerné ou quand on est ami de quelqu'un de concerné et qu'effectivement, on connaît les personnes, on voit, on connaît leur situation, etc. Mais l'association, justement, va avoir pour objectif d'aider les personnes, d'accueillir et de les faire arriver à réconcilier tout ça et à devenir un, à faire l'unité et être pleinement ce qu'elles sont, pleinement enfants de Dieu, pleinement chrétiennes, pleinement aimées et également en les encourageant à aller sur ce chemin de foi si c'est ce qu'elles désirent et à discerner ce qui est bon pour elles parce qu'on sait bien qu'au bout du bout, seule la personne elle-même sait ce qui est bon pour elle, à condition bien sûr d'écouter, de se laisser interpeller, mais au bout du bout de décider comment elle pense être vivante, la plus vivante possible, et c'est bien cela que nous appelle le Seigneur. Alors, du côté de la pastorale, les choses sont bien sûr plus nuancées. On parle plutôt là de situations particulières, on parle de rencontres, et on parle aussi d'accueil, d'ouverture, de compréhension. Et c'est vrai que la pastorale peut permettre à des personnes homosexuelles et leurs proches de se sentir accueillis dans l'Église, non rejetés, non condamnés. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et en fait, on avait, avec d'autres associations chrétiennes, il y a quelques années, fait un petit sondage et on avait remarqué que plus de 50%, aujourd'hui ça doit être bien plus, ça doit être, je sais plus, 60 ou 70, plus de 50% à l'époque, il y a environ 4-5 ans, des diocèses avaient mis en place des actions pour la pastorale de personnes homosexuelles et leurs proches. Voilà. Dans ces actions de pastorale, il pouvait y avoir, mais c'était beaucoup plus rare, quelque chose pour aider les personnes en couple ou qui vivaient de cette situation. C'est en France, pardon. C'est en France, oui. Mais ça montre qu'effectivement, que l'Église était attentive à ces situations et cherchait tout de même à reconnaître hein, ce qu'il y a de bon en chacun d'entre nous et à encourager à vivre les choses selon sa conscience. Alors, à l'association, on peut à la fois, comme je le disais, témoigner de beaucoup de souffrances hein, qui sont liées aux mots qu'on a évoqués tout à l'heure et à ce que dit la doctrine, et qui donnent souvent, c'est souvent des souffrances, on a le sentiment qu'elles sont parfois inutiles ou parfois un petit peu injustes. Et effectivement, pour deux personnes qui vivent en couple, les choses ne sont pas forcément simples. Je voudrais vous citer quelques témoignages qu'on a dans l'association et que moi-même, en tant que personne homosexuelle vivant en couple, j'ai pu dire. Il y a cette idée de dire qu'on est damné, cette idée de dire, j'ai quelques verbatimes, hein, mon désir de vie va à l'encontre de la source de vie de l'Évangile, ou quelqu'un disant, je n'ai pas le droit d'aimer. Voilà. Et à titre personnel, moi je me souviens quand j'ai découvert que j'étais homosexuel, vers 16-17 ans, en tombant amoureux de quelqu'un, c'est vrai que j'ai pas pu gérer ça. Je me souviens pendant 7 ans avoir prié régulièrement en disant « Seigneur, fais que je n'aime pas ». Évidemment, tout ça est à reprendre. Et on voit bien que là, on arrive à peut-être des choses qui sont relativement incompatibles avec le message de l'Évangile. Alors tout ça pour dire qu'on se bat pour réconcilier les choses et que heureusement on y arrive. Alors comment réagir à ce texte par rapport à tout ça? En fait, j'ai envie de dire plutôt bien, même si après on peut nuancer. Moi, je voulais citer trois points, je vais commencer par les points plus négatifs. Trois points plus négatifs. Alors évidemement, ce texte redit et rappelle ce que dit la doctrine, ce que dit le catéchisme, à savoir que un couple homosexuel, ce n'est pas quelque chose qui est moralement acceptable. Voilà, donc, et que l'acte homosexuel donc reste condamnable, en aucun cas encouragé, etc., etc. Voilà, donc le texte redit. En même temps, il n'y a rien de nouveau, on le sait déjà. Voilà, ce n'est pas la première fois qu'on l'entend. Mais voilà, sur ce point-là, le texte ne bouge pas et ce n'était pas le propos du texte. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il est proposé une bénédiction, mais comme l'a très bien expliqué Hélène, c'est une bénédiction peut-être qu'il est difficile à comprendre, parce qu'on met plein de conditions et on peut se dire, bah alors, c'est quoi cette bénédiction au rabais? Et on ne rentre pas toujours dans le détail et la finesse de ce qu'on vient d'entendre. Voilà, donc on peut se dire, bon, déjà que je pouvais avoir le sentiment d'être un chrétien au rabais, j'ai le droit à une bénédiction au rabais. Voilà, donc c'est peut-être un point qui peut renforcer ça et en cela, c'est pas forcément positif. Et puis, la troisième chose que je retiens comme un petit peu négatif, c'est les réactions à cette déclaration. On a eu effectivement, tout le monde, enfin ceux qui ont lu, ont vu que les réactions étaient vives de partout et que parfois avec des réactions violentes et tout. Et ce n'est jamais simple quand on est une minorité et quand on cherche à vivre au mieux avec les meilleures intentions du monde. Ce n'est jamais simple de se voir rappeler à la figure que non, ce que tu vis n'est pas moralement acceptable. Voilà, donc les réactions sont aussi une part peut-être un peu compliquée. Alors, il y a quand même trois points positifs qui fait que, au global, l'accueil que l'on peut faire est positif. C'est que, ben, on l'a déjà dit, mais on se dit que pour la première fois, il y a un texte du magistère provenant du pape et du dicaster pour la doctrine de la foi qui reconnaît en quelque sorte les couples homosexuels. Ça, on n'avait jamais lu. Voilà. Et peut-être que c'est la première fois qu'il n'y a pas que la pastorale qui parle ainsi. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et du coup, on ne peut pas ne pas se dire, tiens, peut-être que ça dit quelque chose de l'évolution future de la doctrine sur ce sujet, ou sur le sujet d'ailleurs des couples irréguliers. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un point positif. Deuxième positif, Alain et Hélène l'ont dit, c'est qu'effectivement, ça dit que l'Église ne peut pas refuser de bénir chaque personne et qu'un couple homosexuel peut être considéré et béni, avec des conditions, mais peut être béni. Ça, encore une fois, c'est quelque chose de positif parce qu'on voit là la volonté d'avancer, d'être plus ouvert, d'être plus humain, et en cela, je dirais que le pape François et sa vision pastorale est très importante, d'autant plus que le pape François, on l'a entendu plusieurs fois dire, ce sont mes mots, hein, mais qu'il cherche à rapprocher la pastorale du magistère. Et du coup, effectivement, tout ça est positif. Ça fait donc du bien d'entendre ça. Encore une fois, je dis à l'association, beaucoup de personnes en couple sont sensibles à cette reconnaissance parce qu'ils ont besoin d'entendre de la part de l'Église oui, vous êtes tués, vous êtes bienvenus. Et les proches et les parents des personnes homosexuelles ont aussi besoin d'entendre ça, d'autant plus que chez beaucoup de parents, la question peut être qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'accepte de recevoir mon fils, ma fille en couple? Est-ce que c'est un péché d'accueillir quelqu'un qui est dans le péché? Vous voyez, enfin, c'est des questions tout à fait habituelles. Voilà. Et puis, moi, je voulais insister aussi sur le fait que dans le fait d'un couple homosexuel, on parle bien sûr beaucoup et on voit, on parle du rapport sexuel, mais on oublie parfois de parler d'amour. Et effectivement, à l'association, ça fait plus de 11 ans qu'on a mis en place des groupes d'accompagnement, des week-ends pour accompagner les couples homosexuels qui souhaitent cheminer dans leur couple sous le regard de Dieu et qui souhaitent essayer de grandir et que le couple soit une manière pour eux de grandir dans la foi. Et on a aussi beaucoup de pasteurs, beaucoup de communautés qui accueillent ces initiatives pour nous accueillir, pour qu'on ait des lieux pour réfléchir à ça. Et pour dire que cette notion d'amour est très importante parce que comme comme tout couple, j'allais dire, même si on a bien conscience qu'un couple homosexuel n'est pas la même chose qu'un couple hétérosexuel. Enfin, il y a des différences objectives, en tout cas. Voilà, il est important parce que c'est un lieu aussi où on peut grandir et où on peut devenir fécond et on peut être fécond pour les autres. Voilà, je crois que c'est très important. Du coup, cette bénédiction dit ça et c'est une question d'ailleurs qui se pose dans l'Église, on l'a vu. En rigolant, je dirais que l'Église se prend bien la tête sur ces choses-là et elle a bien raison de le faire parce que ça pose question. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Le troisième point positif, et j'ai bientôt fini, c'est... Alors, bizarrement, ça, en fait, dans la situation, on a déjà certains pasteurs qui, avec beaucoup de prudence et de discernement, peuvent donner une bénédiction à des couples homosexuels. Ils le font en ayant parlé d'ailleurs autour d'eux, en ayant parlé parfois à leur évêque, mais avec beaucoup de discrétion. Le point positif, c'est qu'avec ce texte, eh bien, il y aura une sorte d'autorisation pour eux de le faire, parce qu'on s'aperçoit que parfois c'est courageux, c'est pas simple, ça demande réflexion, etc. Donc aujourd'hui, on se dit que ces personnes-là, ces pasteurs-là, ne pourront plus être sanctionnés. Voilà. Alors évidemment, tout ça ne règle pas les choses, ça va dépendre des diocèses. Mais quand même, chaque pasteur individuellement, si je comprends bien le texte, pourra donner cette bénédiction sous les conditions énoncées. Voilà. Donc ça, c'est un point très positif. Voilà, je termine donc en disant que fiducia, supplicance pour nous, est une bonne chose, voilà, pour ces raisons-là. Je voudrais juste dire, parce que le débat de ce soir, c'est entre pastoral et doctrine, voilà, comment articuler tout ça. Moi, je voulais citer un membre de l'association qui m'a dit un jour, la pastorale m'a sauvé. Et je trouve intéressant... Hein, parce que vous avez compris, enfin, on comprend que la doctrine, c'est, comme l'a très bien expliqué Alain, enfin, c'est aussi une direction, la vérité, un cadre, quelque chose qui permet de comprendre, d'avancer. Et la pastorale va être vraiment le cœur, la rencontre, la compréhension des situations individuelles, l'accompagnement. Et donc, il est évident qu'on a besoin des deux pour vivre et pour éclairer sa conscience. Mais je trouve intéressant parce que quelque part, ce texte, pour moi, va dans le sens de commencer à aligner ces deux dimensions et de les rapprocher. Voilà, merci.
Merci Jean-Philippe. Donatien, je vais vous donner la parole. Donc la réaction au texte a été particulièrement virulente en Afrique, où le rapport à l'homosexualité est très différent de l'Occident. Cette déclaration, ça a une valeur universelle ou est-ce qu'elle doit être adaptée aux différents contextes ecclésiaux?
Merci pour
la... Bien calé contre le...
Voilà, vous m'entendez bien? Oui, et voilà. Bénédiction de couples homosexuels, disons des couples en situation irrégulière, la pastorale emporte-t-elle sur la doctrine? Bah d'abord, moi, je voudrais dire que je suis un tout petit peu mal à l'aise avec la manière dont le thème est formulé, en ce sens qu'il oppose pastoral et doctrine. Mais toutefois, il faut dire que il a le mérite de mettre en évidence les tensions qui peuvent exister et qui existent, hein, entre les deux. Vos interventions, chers Alain et Hélène et Jean-Philippe, ont suscité beaucoup de questions que j'en poserai quelques-unes. Mais je voudrais faire écho très humblement de ce qu'a été la réception de ce texte en Afrique. Je ne vous apprends rien de nouveau. Vous savez que ce texte a fait l'objet d'une grande opposition, non seulement de la part de l'épiscopat, mais je dirais de l'ensemble de l'Église africaine. Et il faut le dire que le point de discorde avec la Congrégation pour la doctrine de la foi était la bénédiction des couples homosexuels. Ça, moi, je l'ai remarqué. Personne n'a parlé de la bénédiction des couples en situation irrégulière, mais c'était la question de l'homosexualité. je ne me sens pas légitime de justifier ou d'expliquer ces réactions presque unanimes de l'Église en Afrique. Mais je pense qu'au-delà de la polémique pour ou contre l'homosexualité, qui n'est pas du tout notre propos ici, la réaction de l'épiscopat africain va dans le sens de ce que nous voulons faire ici, justement, de porter une attention à la pastorale. En ce sens qu'ils prennent au sérieux le contexte africain, les contextes culturels et ses exigences morales. Alors, Alain, vous l'avez déjà souligné dans votre présentation, parmi les raisons qui font qu'on s'y est opposé, d'abord il y a la question que moi j'appellerais de l'opportunité, je dirais opportunité pastorale de cette question, de cette déclaration dans le contexte africain. Le chrétien n'a pas perçu l'opportunité de cette question parce que il faut le dire que même si c'est une question présente en Afrique, elle ne se pose pas avec la même acuité qu'ici. Il y a aussi le fait que bon, c'était un des sujets en discussion au niveau de l'Église universelle à travers le synode sur la synodalité. Et l'impression était que c'est un texte qui vient, entre guillemets, saper les efforts du pape de nous inscrire tous dans une démarche synodale. Et ensuite, il y a le fait que le texte porte sur la bénédiction des couples en situation irrégulière et des couples de même sexe. Il faut quand même dire que les situations irrégulières englobent les divorcés remariés, les polygames, les concubins et les couples de même sexe que l'on trouve en Afrique aussi. Mais les textes regroupent toutes les autres situations sous le vocable situation irrégulière et citent nommément les couples de même sexe. Et c'était le point de discorde, le grand point. En fait, c'est à cause d'un sérieux problème pastoral auquel l'Église ne peut pas, n'est pas prêter attention, celui de couples de même sexe ici en Occident, mais comme je le disais déjà, il ne se pose pas de la même manière partout. Et moi, je pense humblement qu'en focalisant l'attention sur les couples de même sexe, puisque le texte les cite nommément, la Congrégation pour la doctrine de la foi a détourné l'attention de beaucoup de fidèles africains sur toute la profondeur et la richesse que ces textes portent, malheureusement. Et puisqu'il s'agit de pastorale et doctrine, j'aimerais demander à Alain, finalement, vous ne pensez pas que ce texte se contredit quand il affirme la pérennité de la doctrine sur le mariage, mais en ouvrant la possibilité des bénédictions. En fait, dans vos interventions, vous avez tous parlé de la personne. Et en fait, même le texte de 2021 insistait déjà sur la personne que l'on doit accueillir, mais là, la nouveauté, c'est celui du couple. Et donc, il y a derrière, et quand je parle du couple, pas seulement couple de personnes de même sexe, mais entendez, les divorcés, remariés, les polygames, en Afrique, il y a cette situation-là, entendez les concubins, est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Puisque la peur, il faut le dire, c'était de pouvoir changer la doctrine. C'est Alain, et pour Hélène,
on va commencer par là.
Ah oui, ben merci.
Bon, j'ai bien souligné qu'il y avait une tension, donc on peut penser que les tensions se transforment en contradictions de temps en temps. Oui, pardon. En fait, moi je note, et le texte, quand on le lit de près, je note qu'en fait, ce sur quoi insiste le texte, c'est la non-confusion avec le mariage. Avec la doctrine du mariage. Là-dessus, ils sont fermes, c'est vrai. Sur les autres situations, ils ne disent rien, en gros. C'est-à-dire, en fait, ce que je note aussi, c'est qu'il n'y a pas de considération doctrinale sur ce que tu as rappelé. Les situations irrégulières regroupent des choses très différentes. C'est-à-dire, ce qu'on pourrait regretter dans le texte, c'est qu'en fait, ils mélangent des situations qui sont de fait très différentes. Il faut savoir qu'en France, il y a une grosse pastorale qui existe déjà sur les personnes divorcées et remariées. Depuis 2002, il y a des temps de prière qui peuvent être proposés à l'occasion d'une nouvelle union. Il y a des diocèses qui ont fait déjà des processus d'accompagnement et de discernement pour ces personnes divorcées et mariées afin de les réintégrer, y compris dans les questions sacramentelles.
Il y a même un livre de Alain Thomasset, Famille belles et fragiles, mettre en œuvre l'exportation à Maurice Laetitia dans l'Église.
Voilà, là on explique.
C'est une publicité gratuite.
Avec Oram des Motors, on explique comment mettre en œuvre à Maurice Laetitia, donc toute cette pastorale de l'accompagnement, du discernement, en vue d'une intégration meilleure de toutes ces personnes qui se sentaient exclues dans la vie de l'Église. Et il y a aujourd'hui près de 30 diocèses qui ont déjà fait des directives dans ce sens, y compris avec des directives de temps de prière à l'occasion d'une nouvelle union. Et on pourrait dire des temps de prière, et on pourrait, je dirais, étendre cette pastorale, il y a d'ailleurs des diocèses qui le font, aux personnes homosexuelles également. Il y a aujourd'hui dans les diocèses de France des délégués à la pastorale des personnes homosexuelles. Ça commence, ça va se développer, je pense, parce que c'est une réalité pastorale qui s'impose à nous. Donc, je pense que la pratique pastorale nous invite à réfléchir à nouveau précisément sur le discours de l'Église vis-à-vis des personnes homosexuelles ou vis-à-vis des personnes divorcées ou remariées. Voilà. Je pense que quand on est confronté à la réalité des gens, quand on est au contact de personnes qui, de fait, vivent ce qu'elles ont vécu avec leur responsabilité, qui parfois est très limitée, une personne homosexuelle, elle n'a pas choisi son orientation sexuelle, comment elle va pouvoir vivre sa foi, comment elle va pouvoir vivre une relation particulière avec une autre personne, sous le regard de Dieu. Voilà. Et bien, je crois qu'on a besoin de réfléchir en théologien à cette question aujourd'hui. Et d'une certaine façon, le texte repose la question et nous oblige à reprendre, on pourrait dire, cette considération des gens. Je crois qu'on ne peut pas se contenter de dire les personnes homosexuelles sont intrinsèquement désordonnées et les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés. On ne peut pas non plus simplement se contenter de dire ces personnes sont invitées à la chasteté, c'est-à-dire à la continence et au célibat. Le célibat dans l'Église, c'est une vocation. Peut-on imposer une telle vocation à tous ? Moi, j'ai la question, je n'ai pas forcément la réponse, mais vraiment, je me demande si vraiment c'est possible. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y a une tension. Je pense que, de fait, ce texte nous invite aussi à avancer dans la réflexion théologique sur des situations qui sont un peu inédites aussi. C'est ça aussi la conscience chrétienne. Elle est confrontée à des situations pastorales inédites qui sont la réalité de couples homosexuels, la réalité de personnes divorcées et mariées, ça on les connaît depuis longtemps, la réalité de personnes homosexuelles qui vivent en couple de manière fidèle, parfois depuis des dizaines d'années, qui essayent de vivre leur foi, qui essayent d'être féconds dans leur entourage, dans leur vie de l'Église. Bon, est-ce que ça ne mérite pas d'être reconnu, au moins dans quelque chose de bon. Voilà. Bon, je pense que là, voilà, la réflexion, elle est sur la table. On essaye d'avancer, et d'une certaine façon, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce texte pose cette question aussi en creux. Voilà comment je répondrai.
La question à Hélène.
Ah oui, la question à Hélène, c'est au sujet de l'innovation du texte. Le communiqué du 4 janvier du dicaster pour la doctrine de la foi affirme que la véritable nouveauté du document n'est pas la possibilité de bénir le couple en situation irrégulière, même si c'est ça qui a fait la chronique de tous les journaux. C'est l'invitation à distinguer deux formes de bénédiction. Les bénédictions liturgiques ou ritualisées d'un côté et spontanées ou pastorales de l'autre. Ben, en fait, quand on vient du Congo, Kinshasa comme moi, et vous l'avez bien dit en parlant de l'Amérique latine, on ne voit pas l'innovation dans ces textes, puisque on est habitué à des bénédictions spontanées, et il n'y a pas que le prêtre qui bénit. Moi, mes parents, chaque fois que je suis à la maison, avant de sortir, mes parents me bénissent en me signant sur le front chaque matin. Et quand on rencontre le prêtre que ce soit en chemin ou dans la sacristie, où on peut lui demander une bénédiction. Et donc, ça se fait déjà et il n'y a pas de confusion, il n'y a jamais eu de confusion entre liturgie et ces bénédictions-là. Et surtout, il n'y a pas d'opposition, puisque en fait, cette bénédiction qui est simplement spontanée, elle est pastorale, mais tout comme la bénédiction dans un cadre liturgique est pastorale. Mais là, on différencie les bénédictions liturgiques des bénédictions pastorales. Ça pose un problème pour nous qui venons des contextes où on est déjà habitué à ça. Du coup, la question, c'est en quoi ce texte enrichit la théologie des bénédictions?
C'est effectivement la question, je pense, qui se pose à un théologien de la liturgie et des sacrements, parce que, de fait, jusqu'à présent, nous n'étions pas habitués à considérer la bénédiction comme un acte, je dirais, non liturgique. Je me place ici en européenne. Ce qui fait foi, c'est ça qui nous forme, c'est ça qui dit ce que c'est qu'une bénédiction. Et une bénédiction, si on ne veut pas que ce soit simplement un geste magique ou superstitieux, eh bien, il faut qu'elle soit un minimum ritualisée, qu'elle soit amenée par un contexte d'accompagnement, qu'elle fasse partie d'un cheminement et qu'il y ait certains éléments qui sont empruntés à la liturgie, effectivement, de lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, ça accompagne une bénédiction de manière normale. De même que le fait qu'il y ait présence de membres de la communauté, ou en tout cas de proches des personnes qui sont bénies. Ce sont des éléments qui permettent de comprendre qu'une bénédiction, c'est un don de Dieu, c'est toujours un don gratuit, mais un don qui se reçoit et qui se reçoit en Église, qui se reçoit en même temps que la, on pourrait dire que toute liturgie. C'est-à-dire que on ne demande pas que des personnes en situation irrégulière ne viennent pas, par exemple, à la liturgie des heures parce qu'elles sont en situation irrégulière. De même, pour une bénédiction, on ne devrait pas exclure d'emblée une forme de ritualisation comme ça. Donc je pense que le document a voulu enrichir la bénédiction en rendant légitime une bénédiction de personne, mais en la dépouillant complètement de ce qui fait habituellement une bénédiction. C'est-à-dire en la dépouillant de la présence de la communauté, de la liturgie de la parole, d'autres éléments qui figurent habituellement dans toute bénédiction. Et ça, c'est, je pense, une difficulté. Spontanément, comme théologienne de la liturgie, je dirais, je ne vois pas l'enrichissement, je vois plutôt un appauvrissement de l'acte de bénédiction. Maintenant, une fois encore...
Jean-Philippe parlait de bénédiction au rabais.
Oui, peut-être, oui, de fait... C'est-à-dire qu'en fait, on a des conditions qui sont uniquement négatives. Pas avec la communauté, pas le jour d'un événement particulier, pas avec des vêtements liturgiques, pas. Il n'y a que des conditions négatives, finalement. Et de ce point de vue-là, c'est quand même difficile de considérer ça à l'instar de ce qu'est une bénédiction normalement, hein, c'est-à-dire un geste qui est un signe manifestant la bonté de Dieu, son amour, son accompagnement inconditionnel, et que l'Église relaie comme étant elle-même signe de l'amour de Dieu.
Merci beaucoup. On va peut-être donner la parole à la salle. Des questions? Allez, il faut se lancer. Monsieur?
Oui, bonsoir, merci de me donner la parole. Juste au préalable, je suis père de famille nombreuse et un de mes fils qui a 30 ans ne se dit plus catholique, surtout depuis la manif pour tous, et il est homosexuel. Autre remarque, quand j'ai lu le communiqué des évêques, avec son habitude de faire le grand écart, le Figaro titré « Les évêques sont contre », la Croix titré « Les évêques sont pour ». Dans votre tract, très bien fait, pour cette conférence d'ailleurs qui était très bien, le mot homosexualité n'est pas marqué. Est-ce que finalement le problème n'est pas là? Quand est-ce possible, comment, quand l'Église arrêtera de dire que l'homosexualité est un péché?
Tu veux répondre? Je ne sais pas quand. Je peux vous répondre ça. Mais je l'ai dit, je pense, et je l'ai écrit même, je pense urgent que l'Église se penche sur cette question d'une manière profonde, théologique. Il y a de fait, la Bible nous redit que la différence sexuée est une composante structurante de l'humanité. On l'en comprend et on voit bien que c'est important de le garder. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence entre un couple hétérosexuel et un couple homosexuel. C'est clair. Mais de là à se contenter de dire ce que l'on dit, je crois que c'est pas suffisant et qu'il faut qu'on adapte notre langage. Il faut sans doute qu'on change quelque chose là-dedans. Pour faire droit précisément à cette expérience, je crois que l'une des questions, c'est de fait comment nous écoutons aujourd'hui comme théologiens l'expérience chrétienne, spirituelle de ces personnes. Elles ont besoin d'être entendues, et Jean-Philippe en a donné quelques exemples, voilà, de ce chemin de foi, ce chemin de sainteté même, on pourrait dire, qui peut être le leur. Et donc ça, c'est à entendre, et je pense que ça peut faire bouger notre manière de concevoir les choses dans l'Église.
Philippe ? Oui, pardon. Moi, j'entends de la colère un peu dans votre question, et je la comprends bien. Je me dis que... je pense qu'il faut continuer à faire ce que vous faites, c'est-à-dire, et ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que témoigner de ce qu'on vit, témoigner de ce que votre enfant vit, comment s'il vit en couple, mais même s'il ne vit pas en couple, comment il chemine, en quoi il est engagé dans sa communauté, ou en quoi, effectivement, les mots de l'Église font qu'il s'est peut-être lui-même retiré de l'Église. Je crois que c'est important. Ça rejoint... je sais que quand on discute avec les responsables, on leur dit, bien sûr, les personnes homosexuelles, c'est une minorité, mais ça va au-delà. Parce que ça va au-delà parce qu'on ne comprend plus notre Église à un certain moment, surtout quand on vit, quand on est parent d'eux et qu'on constate que les choses sont finalement assez simples. Et je trouve intéressant parce qu'il y avait une amie qui me disait que sa fille avait quitté l'Église. Elle n'est pas homosexuelle, mais elle a un de ses meilleurs amis qui est homosexuel. Et elle lui disait, je ne retournerai à l'Église que le jour où l'Église comprendra et accueillera mon ami. Je trouve que c'est intéressant. Comment s'interroge? Et moi, je suis très touché d'entendre des personnes comme Alain Thomassé, Hélène, et puis beaucoup de personnes qui entendent ça et qui écoutent ça. Je ne sais pas quand, mais je me dis que il faut faire confiance parce qu'à un moment, c'est évident que on comprendra peut-être les choses différemment plus tard.
Monsieur ?
Il y a longtemps, j'étais interne en dermato-vénéro à Saint-Louis. Et je recevais beaucoup d'homosexuels et de personnes...
Mettez le micro plus près. Le micro plus près de votre bouche.
Je me souviens d'un jeune qui m'avait dit « Mes parents m'ont emmené chez combien de médecins, un homosexuel ?» Je voudrais changer, mais je ne peux pas changer. Les femmes, ça ne m'intéresse pas. C'est une question de nature, il m'a dit. Est-ce que vous pouvez soigner un daltonien? Est-ce que vous pouvez changer un albinos? Est-ce que vous pouvez changer et transformer et aider un trisomique? Vous pouvez le faire ou pas? Est-ce que ce n'est pas une question de nature qu'on ne peut pas changer? Donc, si c'est une question de nature, comment répond l'Église? Et à ce moment-là, Est-ce qu'il y a des choses à respecter et à dire, c'est on peut pas changer. Bon, cette réflexion m'est revenue combien de temps après, en voyant votre programme aussi, et c'est pour ça que je vous pose la question.
Alors, le mot nature est compliqué, hein. Parfois, il vaut mieux l'éviter. Mais vous avez raison. Les personnes homosexuelles découvrent dans leur vie quelque chose qui est structurant de leur existence et qu'il est vain de vouloir changer. C'est tout à fait vrai. Mais je pense qu'il faut qu'on réalise déjà ça. C'est peut-être la première étape. C'est que dans l'Église, on réalise que les personnes homosexuelles n'ont pas choisi et qu'elles essayent de vivre au mieux avec ce qu'elles sont. Déjà, ce serait un gros pas. Prendre vraiment ça au sérieux. Parce que ça a des conséquences. Si on dit qu'on ne peut pas changer, si on dit que, voilà, ça s'impose à nous comme quelque chose... Et de fait, l'origine est mystérieuse. Hein. On a bien cherché les recherches. C'est pas génétique, c'est pas... je sais pas, psychanalytique. Ou... Enfin bon, il y a eu beaucoup d'hypothèses. Hein. Bon, pour l'instant, c'est vraiment mystérieux pour nous. Donc c'est vrai que ça nous... Ça nous bouscule, ça nous perturbe de savoir que voilà, c'est possible pour que des gens se découvrent ainsi. Mais une fois qu'on a fait ce constat, que les gens se découvrent ainsi, voilà, quelle est l'attitude juste à leur égard? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et je pense que l'Église a besoin d'y réfléchir et sans doute de réformer son propos.
Merci beaucoup. Moi, je suis... Camerounais, étudiant ici au Centre Sèvres. Et la question que j'aimerais poser, c'est quelle est vraiment la portée universelle? Je trouve qu'il y a une prétention quelque part. Ça, c'est après la réaction. Je me dis, est-ce que si les évêques africains n'avaient pas réagi, le document serait, par exemple... comme tous les autres documents acceptés par l'Église, quelle est vraiment la portée universelle de ce document? Parce que en Afrique, n'oublions pas qu'on est dans un contexte où il y a un certain panafricanisme avec lequel je ne suis pas à l'aise, qui dit par exemple aux gens qu'il faut retourner dans des pratiques ancestrales et abandonner l'Église. C'est-à-dire qu'on veut jeter le bébé avec l'eau du bain. Et quand ce document arrive, il trouve ce contexte-là. Dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, peut-être que je n'ai pas une bonne mémoire, mais on n'a jamais vu un document venant d'une problématique pastorale se posant en Afrique et qui doit s'imposer à l'Occident. Il y a aussi cette dimension-là. Donc, je me pose la question sur la capacité du pape à dire une parole finalement universelle. Aujourd'hui, il y a la question de la polygamie qui existe en Afrique depuis je peux dire depuis que le continent existe, mais jamais il y a une autre pastorale qui est sortie avant à Maurice Laetitia pour se pencher sur la question. Peut-être que je me trompe une fois. Donc ma question c'est, quelle est la prétention universelle de ce document, surtout si on fait fi des réactions des évêques? Est-ce que le pape a tenu compte du contexte politique dans lequel on se trouve? Parce qu'il faut dire quand même qu'en Afrique, on est une jeune église. Je ne sais pas si on a 2 siècles ou 3 siècles d'existence, mais je ne sais pas. Mais il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Merci.
Oui, moi, ce que je trouve universel dans ce texte, c'est que précisément, et c'est Hélène qui l'a rappelé tout à l'heure, on ne peut plus interdire une bénédiction à toute personne. C'est-à-dire que ça fait partie de la vocation de l'Église de bénir, et que, et d'ailleurs c'est dans le communiqué suivant, ils disent on ne peut pas interdire en tout cas, voilà, ce genre de bénédiction. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans le communiqué du 4 janvier, qui essaye d'expliquer, il y a un paragraphe qui dit « maintenant c'est à chaque diocèse, c'est à chaque pasteur, c'est à chaque continent d'adapter cette possibilité qui est ouverte. » Finalement, c'est ça, c'est la possibilité ouverte qui est universelle. Et finalement, à chaque église de se l'emparer et de se l'adapter. C'est sûr que la situation pastorale en Afrique est différente de celle de la France. Je vous ai déjà dit, en France, on a déjà fait beaucoup de choses finalement dans ce sens-là. Et on pourrait dire presque que ça, ça risque presque de nous freiner, parce qu'on est, on est déjà beaucoup plus avancé d'une certaine façon. Mais voilà, ce qui reste, c'est que cette possibilité d'adapter pour chacun. Donc oui, voilà, à chaque continent d'avancer dans ce sens.
Mais est-ce que le sensus fidei, il est différent suivant le continent ?
Mais, le sensus fidei, c'est pas l'opinion publique. Hein. Alors, sans doute qu'il y a un sensus fidei africain, un sensus fidei occidental, et il n'y aura pas de sensus fidei ecclésial si on ne discute pas ensemble. C'est le processus synodal, justement. Alors, de fait, c'est assez regrettable que le texte arrive avant la fin du synode. Mais ça suppose qu'on discute ensemble. Oui. Et de fait, en Afrique, il y a des situations aussi que nous n'avons pas. Qu'est-ce qu'on fait avec les couples polygames ? Est-ce qu'on les accepte au baptême ? Ben, la question se pose en Afrique. Comment on réagit ? Voilà.
J'aimerais réagir. Moi, je ne suis pas du tout théologien ni spécialiste, mais et c'est ça la difficulté que j'ai avec les textes, c'est en fait de nommer le couple de même sexe et de ne pas nommer le reste. Je pense que si le texte parlait des couples en situation irrégulière, en laissant justement la possibilité à chaque église de l'appliquer à son contexte, je pense que les réactions seraient peut-être différentes, parce que là, on recevrait chez nous la question de polygame.
Mais Maurice Laetitia l'avait déjà fait, en fait. Bah, la question, pourquoi... c'était bien la question des personnes homosexuelles. D'ailleurs, quand on voit le début du texte, ne parle que des couples de même sexe, et ensuite, il parle de situations irrégulières et des couples de même sexe. Et quand la réaction du dicaster en 2021, c'était sur la question d'Oubia posée par un cardinal. En fait, c'était sur la bénédiction des personnes homosexuelles. En fait, c'est ça depuis le début, la question.
Mais c'est pourquoi c'est la question même que le monsieur posait dans la salle, c'est que la vraie question, c'était l'homosexualité, mais autant en parler que de maquiller, entre guillemets, sur la question des couples en situation irrégulière.
Oui, je suis d'accord que c'est dommageable qu'ils aient mis les deux ensemble.
Ouais. Ouais, puisque ça fait des situations complètement différentes. Ouais.
Autre question dans la salle ?
Bonsoir, une question d'une auditrice qui nous suit sur YouTube.
Parle bien fort, mets le micro plus.
Oui, quand on parle de pastoral, on s'imagine le pasteur qui conduit son troupeau quelque part. Il a sans doute une idée de où il veut conduire son troupeau. La question porte sur l'objectif de la pastorale des couples homosexuels. Est-ce que c'est pour les aider à sortir de cette situation ? Ou est-ce que c'est les encourager à mener une vie de couple ? Et est-ce que vous pouvez nous aider à clarifier l'objectif réaliste de la pastorale d'Église ? On entend qu'il s'agit de faire que les gens changent. Alors qu'est-ce qu'on leur propose concrètement comme chemin ? Et jusqu'où est-ce que l'Église accompagne ? La question tourne autour de ça.
Alors c'est difficile pour moi de dire c'est quoi l'intention derrière, mais je dirais que la pastorale est vraiment, comme je disais tout à l'heure, pour moi on est de l'ordre des situations particulières. On peut tendre vers un idéal. On est tous d'ailleurs appelés à tendre vers un idéal d'amour, voilà. Et on sait tous bien que humainement on ne peut pas, ou on ne peut pas seul, on ne peut pas sans l'aide de Dieu, etc. Donc je me dis que la pastorale, elle est là pour prendre la personne là où elle en est et l'aider à avancer. Alors, la question est bonne, parce que dans la situation, certaines personnes disent, ben moi je veux bien partir de là où je suis, il y a le principe de gradualité, donc je dois tendre vers cette fameuse continence qu'on me demande, c'est-à-dire de ne pas avoir d'acte homosexuel et de ne pas vivre en couple, en tout cas avec des relations sexuelles. Ou d'aimer de manière platonique ou je ne sais quoi. Donc là, oui, c'est ça, il ne faut pas faire cette confusion-là. Moi, je me dis... je me dis souvent, tiens, si j'étais en face du Christ, qu'est-ce qu'il me dirait aujourd'hui ? Voilà. Et je dois vous avouer que moi, étant en couple depuis plus de 15 ans, j'ai avec mon compagnon, on a plusieurs fois remis à Dieu notre relation en disant, bah, écoute Seigneur, si jamais vraiment on se trompe complètement, fais-le nous savoir d'une manière ou d'une autre. Enfin, c'est plus subtil que ça, mais vous imaginez. Voilà. Et en fait, je ne sais pas comment vous dire, mais à chaque fois, moi, cette histoire de couple, ça me fait grandir. J'ai plutôt été confirmé dans la relation que j'ai avec mon compagnon, dans le sentiment d'amour. J'ai l'impression d'apprendre à aimer et d'apprendre aussi à faire que cette relation, elle soit utile aux autres, féconde pour les autres. Voilà, et puis et je chemine avec des hauts et des bas, mais je chemine dans la foi. C'est pour dire que, pour moi, la pastorale, c'est ça. C'est-à-dire que, et moi, je suis reconnaissant envers l'Église, malgré tout ce que les souffrances que je peux voir chez les uns, chez les autres, et on a eu un témoignage dans la salle, mais je suis reconnaissant à l'Église parce que j'ai eu beaucoup d'accueil compréhensif, d'encouragement, d'accompagnement. Et en fait, l'Église m'a fait grandir, m'a fait cheminer spirituellement. Il se trouve que mon âme et conscience, avec ce que je vous ai dit, avec le fait de dire, ben, écoute, à la limite, moi, je suis prêt à revoir les choses, eh ben non, l'Esprit Saint m'a jamais interrogé là-dessus, ou remis en question là-dessus. Enfin, avec toute l'humilité que je dois prendre pour dire ça. Et j'ai plutôt l'impression qu'il m'a aidé à m'unifier, voilà, à être un en Christ, si je peux reprendre le nom de notre association, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être moi-même et d'être, ça c'est un truc qu'on m'avait dit, un jour quelqu'un, en fait mon accompagnateur spirituel m'avait dit, écoute Jean-Philippe, sois vivant, sois un grand vivant, voilà, et ben ça me rend vivant, le fait de ce que j'ai à vivre, avec l'idée aussi de le vivre le mieux possible. Mais voilà, c'est ça qui m'arrive. Donc la pastorale pour moi, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on aide les personnes, on les accueille telles qu'ils sont, là où ils en sont, et on les aide à trouver, à discerner ce qui est bon pour eux, pour cheminer. Voilà. Donc je ne mets pas la doctrine à part, parce qu'elle dit quelque chose, elle cherche. Enfin, encore une fois, on a besoin des deux. Mais j'ai conscience aussi que ce qu'on vit et le témoignage de parents, de personnes... peut aider, enfin il faut interroger l'Église, voilà, interroger l'Église. Peut-être qu'on ne connaîtrait pas ça de notre vivant, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est de dire voilà ce qu'on vit, qu'est-ce que vous faites de ça.
On peut dire que la pastorale, telle que Amoris Laetitia, le pape François, c'est une pastorale d'accompagnement dont il parle, eh bien c'est une pastorale qui consiste à aider les personnes à trouver la volonté de Dieu pour leur vie à eux. C'est-à-dire, c'est vraiment quelle est la volonté de Dieu pour moi, dans mon histoire, en fonction de qui je suis, de là où je suis, quel est le pas que je peux faire pour être plus fidèle à l'Évangile, pour avoir une relation plus forte avec le Christ, quelle que soit la situation où je suis. Et ça peut m'étonner ce que les gens découvrent, mais on va les aider à découvrir, voilà, ce chemin de vie, comme tu disais, ce chemin de vie qui va être le mien. On est fait pour ça, l'Église, non ? J'allais dire... aider les gens à mieux vivre et à vivre selon ce qui va les rendre heureux et plus proches de Dieu et des autres. Je vais pas plus loin. Autre question ? Merci.
Oui, bonsoir, merci pour ces témoignages. Je suis aussi un ancien de devenir en Christ.
Parlez bien fort.
Je suis un ancien de devenir en Christ, en fait. Il y a quelques années, effectivement, j'étais dans l'association parce que je vivais cette question justement de division intérieure. Et c'est vrai que dans l'association, j'avais trouvé justement cette possibilité de cheminer et de travailler à l'unification intérieure. Et du coup, je rebondis un petit peu sur ce que disait Jean-Philippe. Je pense qu'il y a vraiment dans l'Église à travailler la question d'une part de l'unité et aussi de l'unité avec dans le cas d'un couple homosexuel, avec le compagnon ou la compagne. C'est-à-dire comment à deux, en fait, on peut cheminer. Et pour ça, je me demande si quelque part, en fait, on ne devrait pas, plutôt que de tout axer sur la sexualité, plutôt axer justement sur ce qui relie deux personnes. Qu'est-ce qui vitalise et relie deux personnes ? Et bien, c'est justement aussi cette recherche-là que nous demande Jésus, c'est de savoir comment mieux aimer quand on est avec une personne du même sexe, comment mieux l'aimer. Et comment je peux être juste et vrai en dehors de la question de la sexualité, parce qu'on sait bien effectivement que deux personnes homosexuelles ne donneront pas d'enfants, d'accord, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'aiment pas de manière aussi qualitative qu'un couple qui pourrait être hétérosexuel également. Donc en fait, il y a cette question-là. Et je me demande si aussi il n'y a pas à travailler, là, parce qu'en fait j'ai écouté aussi un youtubeur sur internet, le frère Adrien, qui est dominicain, et qui parlait d'un rite qui a été des premiers temps chrétiens, au XIe siècle, qui a été oublié, qui s'appelle la Delphopoiesis. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de ça. Mais c'est un rite en fait qui était un rite de en quelque sorte c'est pas un mariage mais c'est une bénédiction, enfin une forme de bénédiction entre deux personnes de même sexe, mais qui était de l'ordre de l'amitié. L'amitié spirituelle profonde, du type David et Jonathan ou d'autres. Et en fait ce rite-là qui a été donc oublié, pourquoi l'Église justement ne pourrait pas et essayer de voir si on ne peut pas revisiter ce type de rite chrétien qui existait dans les premiers temps, qui permettait à deux personnes d'être ensemble, bon, sachant que, de toute façon, ce qui est plus important, c'est effectivement c'est de grandir ensemble amoureusement, enfin dans l'amour, dans l'unité du Christ, et voir comment cela peut s'exprimer. Voilà. Et je repense, pour terminer là-dessus, aussi un témoignage d'une personne homosexuelle qui a longtemps vécu avec un compagnon comme ça, sa sexualité librement, qui à un moment donné a eu la visite du Seigneur, qui lui a dit tu peux rester avec ce compagnon donc qui était séropositif, mais reste dans la continence. Voilà. Donc c'était en fait l'appel du Seigneur pour lui. Et ils ont vécu vraiment une relation très forte pendant plusieurs années comme ça, dans la continence. Donc peut-être qu'il y a un début de réflexion à avoir là-dessus, sur la manière de vivre la continence aussi, et l'amour dans un couple homosexuel, et même hétérosexuel d'ailleurs.
Oui, c'est vrai que la continence a peut-être une vocation pour certains, c'est clair, sans doute pas pour tous. Voilà, donc, et je dirais, pour les couples homosexuels, je pense que ce qu'on fait dans les préparations au mariage, ça peut aussi s'appliquer pour eux. Hein. Ils sont aussi invités à avoir un amour fidèle, qui dure, qui est permanent, qui est fécond, alors d'une autre façon qu'une fécondité biologique, mais qui sont aussi appelés à une fécondité sociale, culturelle, ecclésiale. Donc je pense que les piliers, on pourrait dire, les quatre piliers qu'on connaît souvent, en fait, s'appliquent aussi. Donc ça peut être aussi une forme de la pastorale. D'autres questions ? Oui.
Oui, bonsoir. Ça fait longtemps que l'Église bénit les personnes et toutes les personnes, y compris les personnes homosexuelles, dans toutes leurs dimensions, personnes relationnelles, personnes politiques, toutes leurs dimensions. Et par ailleurs, elle s'est opposée au mariage homosexuel, mariage civil homosexuel. Certaines personnes sont choquées des bénédictions des couples en situation irrégulière. Pour la même raison que pour laquelle l'Église s'est opposée au mariage homosexuel, c'est-à-dire une forme de légitimation sociale, civile, ecclésiale d'une situation irrégulière. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre au fait de proposer de bénir des couples en situation irrégulière, non pas des personnes, mais justement des couples, alors que le problème qui choque les personnes, c'est justement que la situation est irrégulière. Pour le dire autrement, la bénédiction... Dans tous les exemples de bénédiction qu'on a eu dans le document, là, à chaque fois, on nous disait bénédiction, mais en rappelant aux personnes qu'il y a un chemin, une progression à faire, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de scandale par une apparence de légitimation de ce qu'on considère justement comme intrinsèquement désordonné ou de l'ordre de la situation irrégulière ?
Je ne sais pas s'il faut parler d'une forme de légitimation. Je crois que C'est assez évident qu'il ne s'agit pas de la même chose. Mais il s'agit quand même de dire que les personnes en situation irrégulière, quelle que soit la cause de l'irrégularité, ont place dans l'Église et sont aimées de Dieu et sont appelées à déployer leur vocation baptismale avec ce qu'ils sont. Il ne s'agit pas de copier un modèle que de toute façon on ne peut pas copier. Il s'agit d'être pleinement, positivement ce qu'on est. Et je crois que c'est ça aussi que veut dire la bénédiction. Moi, je trouve que l'insistance sur la non-confusion est sans doute... Enfin, peut-être il fallait le dire une fois ou deux, mais revenir sans arrêt dessus, je vois pas l'utilité. Et je ne suis pas sûre que ce soit ça le premier danger. Je crois que l'objectif vraiment de la déclaration, c'est de réhabiliter une présence de l'Église qui, à travers son geste de bénédiction, dit la proximité de Dieu envers tous et l'inaliénable dignité de toute personne, quoi qu'elle soit et quoi qu'elle vive. Je crois que une fois ça affirmé, redit, c'est l'essentiel. Après, de fait, je pense que suivant les lieux, les questions sont variées. Et que c'est pas en France qu'on va traiter la question des polygames, encore que, mais normalement non. Mais c'est quand même à chaque pays, chaque diocèse, de déployer à partir de ce que cette déclaration ouvre comme possible, de continuer ce travail de mise en œuvre de la bonne nouvelle que Dieu propose à tous ceux qui sont baptisés. Je ne sais pas si c'est clair.
Très bien. Encore une question ?
Je me demande si cette réflexion, en fait...
Parlez bien près du micro. Voilà,
je me demande si cette réflexion, en fait, plus largement, n'invite pas l'Église à réfléchir sur la sexualité en général. En fait, j'ai l'impression qu'on nous demande de remettre un peu de complexité à l'endroit de la sexualité. Pour peut-être, alors en écoutant les expériences, comprendre que toutes les manières de vivre l'homosexualité ne se valent pas, et qu'il y a des manières qui permettent, comme on l'entend, une fécondité. Et du coup, je me dis, mais dans quelle mesure, finalement, là, peut-être une forme de complexité qui peut apparaître, dans le bon sens du terme de complexité, avec cette question, n'est-elle pas aussi peut-être ce dont l'Église pourrait avoir besoin pour intégrer pas mal d'enjeux qui se posent à elle sur ce rapport entre la sexualité et beaucoup d'autres dimensions à la fois, enfin vous me suivez, par rapport au scandale des abus, enfin pas seulement ça, mais voilà, est-ce que finalement le coin qu'on enfonce là n'ouvre pas des portes pour penser plus loin?
Bon, il y a des, je crois que la réflexion théologique, elle a besoin de se nourrir aussi des apports des sciences humaines. Donc il faut sans doute le faire encore davantage. La sexualité, c'est compliqué, c'est complexe. Et nous avons... Alors ça se fait déjà, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter de simplement utiliser des catégories qui sont déjà anciennes pour parler de la sexualité dans l'Église. Je pense qu'on a besoin des sciences humaines. On a besoin de l'expérience des personnes à entendre, ce qu'on l'a déjà dit, et on a besoin de retravailler la tradition, c'est-à-dire de la réinterpréter dans le sens de comprendre le sens de ce qui nous est demandé par l'Évangile. Et ben, je crois que c'est un travail qui est devant nous. Hein. Il faut continuer à travailler là-dessus. On voit bien que ce discours sur la sexualité dans l'Église, d'ailleurs le rapport de la CIAS l'a souligné, a pu aussi contribuer par certains aspects à favoriser les abus. Voilà. Parce que, par une certaine idéalisation d'un idéal inaccessible, finalement, ça a pu aussi provoquer des réactions inverses, c'est-à-dire toutes les barrières sautent. Bon, il y a des réflexions dans ce domaine. Il y aura un colloque là, au mois de mars, justement, sur ces sujets, du lien entre le discours de l'Église sur la sexualité et la question des abus. Donc la question est sur la table, de fait. Comment est-ce que notre discours a pu être maladroit ou mal interprété ou mal compris ou pas adapté ou pas juste et qui doit être remis sur le devant de la, remis sur le métier, pardon. Merci beaucoup. Étienne, oui.
Merci beaucoup. Oui, mais je suis désolé, il y a encore beaucoup de questions. La règle, c'est qu'on finit à 9h moins le quart. Il est 9h moins le quart.
Parle dans le micro. Donc,
oui, il est... C'est la règle, excusez-moi. Donc, la réunion prochaine aura lieu le 5 mars et le thème sera « L'Ukraine, 2 ans après, quel défi pour l'Europe ?» Voilà, merci encore à vous tous et excellente soirée.